Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Gmoun.
Chenne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani, bonsoir et bienvenue à ce grand dialogue qui va s'intéresser ce soir à la levée partielle des sanctions contre le Mali. Qu'est-ce qui va changer? Ce sera donc le thème et nos invités sont Dr Fodié Tandjougoura, sociologue, et Modibo Mahou Makalou, économiste, qui nous rejoindra au cours du débat. Je suis Mohamedou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs, bonsoir et bienvenue.
Le grand dialogue.
La CEDEAO a levé les sanctions économiques et financières qui pèsent sur le Mali ou pesaient sur le Mali depuis plus de 5 mois. Toutefois, les sanctions individuelles et la non-participation du pays dans les différents organes de la CEDEAO sont maintenues. Quelle analyse de ces décisions de l'organe sous-régional? Qu'est-ce qui va changer pour le Mali? Quelles doivent être maintenant les priorités pour la transition? Autour de ces questions, le débat se tiendra. On va d'abord écouter une réaction de certains habitants de la capitale malienne Bamako qui vont réagir sur leurs avis par rapport à cette décision de la CEDEAO prise hier à Accra.
La CEDEAO est à saluer. Il faut reconnaître aussi que le gouvernement de la transition aussi a vraiment fourni énormément d'efforts.
On doit être méfiant par rapport à cette levée de sanctions.
Ça devait faire depuis très longtemps. Le Mali ne mérite pas ça. La CEDEAO est là pour aider, mais pas pour nous imposer des sanctions.
Si les chefs d'État de la CEDEAO ont songé à lever les sanctions, je crois que c'est une bonne chose. C'est à l'État, aux autorités, de respecter les calendriers qu'ils ont donnés.
La levée des sanctions sera un soulagement pour les pays.
Avant, les sanctions souffraient déjà. La vie que les Malais même aspirent, ce n'est pas conditionné à la levée des sanctions. On doit pousser cette transition juste à la sortie pour que ça soit une réussite.
La levée de ces sanctions-là va diminuer un peu la souffrance des Maliens.
Faire un embargo, c'est la population qui en souffre aussi.
Je ne pense pas que nous devons avoir des réserves parce que les sanctions-là, ça touchait plus les Maliens, mais ça ne touchait pas les Maliens seulement.
Alors, c'était là les réactions de certains habitants de la capitale par rapport à cette levée des sanctions. Docteur Fodié Tandjougoura, quelle analyse faites-vous de cette levée des sanctions qui était, on va dire, tant attendue par les Maliens?
Oui, bon, comme vous l'avez dit, merci pour l'invitation. En fait, le peuple malien a attendu cette levée avec beaucoup d'impatience. Je pense que la capacité de résilience du peuple malien est à saluer. Jamais, par le passé, le peuple n'a été regardant vis-à-vis de la situation politique, économique et sociale du pays, surtout dans cette situation de crise. Maintenant, les gens l'ont accueilli avec vraiment beaucoup de ferveur. Est-ce la fin de tous les problèmes? Est-ce quand même la fin d'une partie des difficultés? Les gens espèrent que la levée de ces sanctions va fluidifier l'économie de telle sorte que certaines activités qui étaient aux arrêts depuis un moment donné pourront reprendre. Donc c'est l'espoir qui renaît à nouveau. On va voir jusqu'à où ça peut nous conduire. Le souhait de tous les Maliens est de parvenir à surmonter ces difficultés économiques qui avaient été imposées par les sanctions. Donc on espère que la relance économique est à venir.
Vous l'avez entendu dans le micro-trottoir, il y a un Malien qui disait toutefois qu'il faut être méfiant par rapport à cette levée des sanctions. Pensez-vous qu'il faut l'être?
Oui, en fait, la levée des sanctions intervient dans un contexte mondial de crise, dû à la guerre en Ukraine, dû même antérieurement à la crise de Covid-19, qui avait fragilisé l'économie sur le plan mondial. Donc, il n'y a pas une très grande réjouissance à ce niveau, d'autant plus que même les pays qui n'étaient pas sous embargo avaient des difficultés économiques. Donc, il y a certes un avantage pratique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir importer des produits, on va pouvoir faire des recettes aux frontières, mais il y a quand même des difficultés qui vont subsister. Ensuite, est-ce que ce communiqué final, n'est-ce pas, de l'organisation qui met en garde contre une possibilité pour les membres de la transition de se présenter, est-ce que cette disposition, je n'ai pas vu un communiqué officiel par rapport à ça, on ne sait pas comment tout cela va se terminer. Donc, levée partielle, comme vous l'avez précisé. Donc, on saura peut-être à la fin de la transition, mais à mon avis, je pense qu'il y a encore des choses qui vont être secouées plus tard.
Et comme quelles choses, par exemple?
Par exemple, si d'aventure il revenait à un membre de la transition de se porter candidat, par exemple, Donc ça veut dire que les sanctions, selon l'esprit, risqueront de reprendre immédiatement. Maintenant, si c'était le cas, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le peuple malien, qui avait été résilient depuis très longtemps, va continuer à suivre le charisme du chef d'État, du Premier ministre et des autres? Ou bien est-ce que le peuple va cette fois-ci prendre une responsabilité tout à fait contraire pour essayer, n'est-ce pas, de se poser en garde-fou avec la communauté internationale? Donc, on ne le sait pas encore, c'est dans quelques années. On va attendre, c'est pourquoi les sanctions ne sont pas totalement levées. Le fait que le président de la République et le ministre des Affaires étrangères sont exclus des sanctions, c'est là un signal que la CEDEAO voudrait toujours continuer à dialoguer avec le Mali. Donc elle n'est pas totalement sourde, mais elle est méfiante, je dirais. Voilà.
Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je rappelle que le débat compte deux invités, mais le deuxième est en retard. Modibo Mahoumakalou, économiste. Docteur Fodié Tandjougra, vous abordez la question tout de suite par rapport au risque que les sanctions puissent revenir, que la CEDEAO puisse imposer de nouvelles sanctions ou refaire revenir ces sanctions-là au cas où il y aurait un membre du gouvernement qui déciderait de se porter candidat. Mais aujourd'hui, est-ce que, au vu de la situation, de l'évolution des choses, est-ce qu'il y a des signes qui montrerait cette possibilité ou cette volonté de vouloir se présenter?
Bon, vous savez, je n'ai pas de boule de cristal. Hein. On ne peut pas lire leurs intentions, mais je sais tout de même qu'il y a tout un ensemble de mouvements que j'appelle des mouvements parasites, hein, d'associations spontanées qui naissent comme par le passé, on le sait, et qui sont là, qui gravitent autour du pouvoir, qui chantent de jour comme de nuit, une certaine possibilité pour, n'est-ce pas, le président de la transition de se porter candidat. Il ne s'est jamais prononcé là-dessus. Je le crois très lucide pour se prononcer. Mais je n'ai pas compris pourquoi on a maintenu la disposition de 4 mois pour donner le temps à quelques membres que ce soit de se déclarer. Alors même que l'ancienne charte, ou la charte tout simplement, prévoit que, il n'y aurait aucun des membres qui soit candidat à l'issue, n'est-ce pas, de la transition. Pourquoi, subitement, on garde cette disposition? Donc, peut-être c'est pour cette méfiance, je dirais, pour parer à d'éventuelles velléités, la CEDEAO a mis des garde-fous pour empêcher qu'un des membres de la transition soit candidat. Bref, alors on verra bien parce qu'on ne peut pas présumer sur leurs intentions. Personne ne s'est déclaré pour l'instant, mais tout le monde voit les lucarnes, on sait que ça peut arriver, voilà.
D'accord. Alors aujourd'hui, quand on regarde aujourd'hui cette levée des sanctions, peut-on dire que c'est un compromis qui a permis cette levée des sanctions, ou est-ce qu'une des parties s'est retrouvée dos au mur?
Bon, on va dire que les sanctions n'ont vraiment pas abouti à l'axe fissier escompté par les dirigeants de la CEDEAO. C'est-à-dire que le Mali était un pays continental totalement fermé. Peut-être qu'on pensait que les sanctions allaient pouvoir contraindre les membres de la transition à aller rapidement vers une conciliation. Certains avaient prédit même une dizaine de jours, un mois tout au plus. Donc, on a pu tenir. Le peuple malien a été très résilient, très compréhensif. En d'autres contextes, ça n'aurait pas été possible. Nous nous sommes résignés, toutes les corporations. Et cette résilience a étonné beaucoup de gens. Maintenant, comme la visée escomptée n'a pas été atteinte, et la communauté internationale également a vu argument contre argument, donc finalement, ce serait mieux qu'on réétudie, n'est-ce pas, le dossier malien. Je pense que c'est l'ensemble de ces constats, des négociations d'autres individus, d'autres chefs d'État, que ce soit en surface ou en coulisses, qui auraient abouti finalement à cette levée des sanctions, cette levée partielle des sanctions, sur la situation du Mali.
Mouloumou Makalou, merci de nous rejoindre. Vous êtes économiste. Aujourd'hui, on parle de cette levée partielle des sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Selon vous, est-ce que le Mali a pu tenir? Qu'est-ce qui a permis aux Maliens de supporter ces sanctions pendant ces 5 derniers mois?
Bonsoir d'abord, Mohamedou, et bonsoir Monsieur Tandjougra, et bonsoir à toutes les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. Je m'excuse du retard, qui était indépendant de ma volonté. Écoutez, vous savez que le Mali a été sanctionné le 9 janvier 2022. Les sanctions étaient de 5 ordres. Je ne sais pas si vous l'avez abordé. C'est des sanctions politiques, diplomatiques, économiques, financières et commerciales. Toutes les sanctions ont été levées à l'exception des sanctions politiques. Les sanctions politiques ciblaient notamment les dirigeants de la transition. Donc nous parlons des 121 membres du Conseil national de transition qui fait office d'organe législatif. Et la quasi-totalité des membres du gouvernement, c'est-à-dire à l'exception du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, au niveau des restrictions de voyage, ainsi que des membres de leur famille, de même que la participation du Mali dans les organes de décision des deux institutions, parce qu'il s'agit de deux institutions sous-régionales en réalité, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui est une communauté économique régionale de l'Union africaine. Parce que l'Union africaine a 8 communautés économiques régionales, mais il y en a 5 qui sont géographiques. Donc la CEDEAO s'occupe de l'Afrique de l'Ouest et regroupe les 15 pays. Et l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui est constituée de 8 membres, c'est-à-dire les 8 pays en Afrique de l'Ouest qui ont en partage le franc CFA. Donc les sanctions concernant les sanctions politiques ont été maintenues, évidemment pour des raisons que nous allons évoquer par la suite, parce que c'est lié à la mise en œuvre du calendrier électoral, du chronogramme électoral. Et maintenant, les sanctions diplomatiques ont été levées parce que les ambassadeurs de la CEDEAO avaient été rappelés, donc d'après le communiqué final que moi je viens de voir. Ils vont pouvoir rejoindre leur poste à Bamako. Aussi, les sanctions, surtout économiques, financières et commerciales, les frontières sont rouvertes depuis hier. Et nous sommes entourés par 7 pays, dont 5 membres de l'UEMOA et de la CEDEAO. Donc, 4 sont membres de l'UEMOA et 5 sont membres de la CEDEAO. Et tous les pays membres de l'UEMOA sont membres de la CEDEAO. Et aussi, le gel des avoirs de l'État malien au niveau de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Les 8 pays ont en commun une banque centrale et ils ont en commun une monnaie. Donc ce compte unique du trésor au niveau de la Banque centrale contient les devises de l'État malien. Par exemple, si nous exportons du coton, les recettes sont rapatriées dans ce compte-là. Et c'est ça aussi qui permet à l'État de faire des achats à l'extérieur, notamment parce que la Banque centrale est chargée de gérer les devises et les avoirs extérieurs des 8 pays, en mutualisant nos efforts dans ce sens. Mais aussi, il y a le gel des avoirs des compagnies publiques et parapubliques de l'État du Mali, leurs comptes ont été gelés dans l'ensemble des pays de la CEDEAO, dans les banques commerciales notamment. Et aussi, il y a les banques d'investissement dont on ne parle pas souvent. Il y a 2 grandes banques d'investissement en Afrique de l'Ouest, la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD, et la Banque d'Investissement de la CEDEAO. Donc, ces 2 banques avaient aussi suspendu les investissements dans notre pays. On n'en parle pas assez, mais cela a eu un effet sur l'économie parce que nous avons continué à travailler sur un budget d'austérité, c'est-à-dire l'État malien dans le projet de loi de finances 2022 avait consacré 72% des charges budgétaires au fonctionnement de l'État et 28% aux investissements. Donc les investissements, on les a réduits à néant et l'État ne travaille qu'avec 15% de ces 72%. Donc tous les investissements ont été arrêtés pendant 6 mois. Et donc évidemment, avec cette crise, en fait, cette austérité, vous réduisez le fonctionnement, mais en même temps, vous paralysez le fonctionnement de l'État parce que l'État ne fonctionne que partiellement dans ses missions régaliennes et ses missions de service public.
Et quel impact donc pour le citoyen lambda ?
Mais l'impact pour le citoyen lambda, c'est l'éducation, la santé, l'état des routes, l'eau potable, l'électricité, parce qu'il ne faut pas oublier que...
Mais certains vous diront que les coupures d'électricité notamment existaient avant ces sanctions, d'autres vous diront que l'état des routes était déjà dégradé aujourd'hui par rapport à l'éducation, des problèmes sont posés. Donc quel impact concret pendant ces 6 mois ?
Mais vous savez, nous sommes dans un pays où l'État est le seul payeur, est le plus grand payeur et le plus grand acheteur. Tout dépend de l'État. Parce qu'il faut comprendre d'abord que les ressources de l'État, c'est-à-dire les charges budgétaires dans le projet de loi de finances 2022, c'est 2 749 milliards de francs CFA. Et les ressources ne sont que de 2 131 milliards de francs CFA. Donc le gap qu'on appelle le déficit budgétaire est de 618 milliards. Bon, depuis 1960, nous avons toujours eu plus de dépenses budgétaires que de ressources budgétaires. Mais c'est ce gap, on l'emprunte sur les marchés financiers. Et on avait été exclu aussi de ce marché financier, non seulement par rapport au remboursement de la dette, mais on ne pouvait pas emprunter non plus. La conséquence que cela a, c'est d'abord la dette intérieure. Toutes ces entreprises et même des personnes qui devaient être remboursées par l'État, les remboursements ont été suspendus. L'État n'a pas pu faire rembourser sa dette extérieure ni sa dette intérieure. Mais pour moi, c'est la dette intérieure qui est la plus importante parce que c'est ça qui permet, qui donne la trésorerie aux petites et moyennes entreprises nationales. Parce que si elles ne sont pas payées, elles ne vont pas payer leurs fournisseurs, elles ne vont pas payer leurs employés. Et ceux-ci ne pourront pas consommer. Et si ceux-ci ne consomment pas, bon, évidemment, ceux qui vendent ne pourront pas vendre. Et donc, vous savez, c'est un effet boule de neige. C'est ça qu'on appelle l'économie circulaire. Donc, ça a eu un impact sur tout le monde parce que, vous savez, l'État emploie une centaine de milliers de personnes et vous savez que chaque famille, au moins chaque employé a au moins 10 personnes à charge. Donc tout cela peut affecter les dépenses, surtout la consommation, mais aussi au niveau des entreprises privées, les investissements.
Qu'en pensent donc les partis politiques? On va écouter ce reportage de Adama Amadou Haïdara à travers lequel deux partis politiques donnent leur point de vue sur cette levée des sanctions de la CEDEAO.
Le cadre d'échange des partis et regroupements de partis politiques pour une transition réussie se réjouit de la levée de l'embargo économique et financier qui pesait sur le Mali. Pour Amadou Aya, membre du comité d'experts du cadre, les autorités doivent maintenant travailler pour la levée des autres sanctions. Pour cela, l'inclusivité doit être mise en avant, dit-il.
Le cadre salue vraiment cette initiative. Il reste encore d'autres sanctions. Il s'agit des sanctions individuelles, la participation de notre pays dans les différents organes de la CEDEAO. Donc travailler à lever cela. Et nous, à notre niveau, nous demandons seulement aux autorités de travailler dans le cadre de l'inclusivité. Si chacun de nous s'y met, nous pensons que nous allons arriver à bon port.
L'Alliance pour la République APR soutient les autorités de transition. Pour son président Oumar Ibrahim Touré, cette levée des sanctions est un non-événement au regard des actions posées pour son obtention. S'agissant de la non-participation des autorités actuelles aux futures élections, il affirme que le débat ne se pose pas.
Les questions soulevées par les chefs d'État pour dire la condition de ce sujet-là, moi je pense que la charte de la transition gère cette question-là. Donc nous n'avons pas besoin de rentrer dans des débats inutiles. Mais je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de continuer notre voie. Que les autorités de la transition s'attellent vraiment à travailler conformément déjà à la feuille de route. Je crois que c'est ça le plus important.
Les autorités de la transition ont déjà établi un projet de chronogramme présenté aux partis et à la société civile. Dans ce document, le référendum est prévu pour le mois de mars 2023, les législatives en octobre et novembre 2023 et la présidentielle en février 2024.
L'Alliance APR trouve que c'est un non-événement. Docteur Fodier Tandjougoura, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui que cette levée des sanctions est un non-événement pour le Malien lambda?
En fait, je ne sais pas exactement ce qu'il y a derrière cette expression de non-événement. Pendant plus de 6 mois ou environ 6 mois, nous avions tous les yeux rivés vers Accra pour voir quel sera notre sort à chaque sommet. Je pense que c'est le citoyen simple ou tous ceux qui occupent une responsabilité administrative ou politique ou sociale, tous attendaient, n'est-ce pas, la levée des sanctions. Donc on ne peut pas, de mon point de vue, penser que comme si de rien n'était. Mais il l'a précisé au regard des efforts fournis, probablement parce que nous nous sommes battus, nous l'avons mérité peut-être, c'est pour cette raison qu'on ne doit pas s'en réjouir. Mais dans tous les cas, de mon point de vue, c'est un événement majeur puisque ça permet de remettre la machine en marche, ça permet de retrouver plus ou moins un semblant de normalité. Et ça a aussi des conséquences parce qu'il y avait quand même un certain nombre de défis, notamment le fonds social.
On va y revenir tout à l'heure. Est-ce un non-événement, Mourou Maoumakal?
D'abord, nous sommes dans deux organes d'intégration économique. Qu'est-ce que ça veut dire l'intégration économique? C'est le degré le plus avancé de l'intégration économique, l'union économique et monétaire. Ça veut dire que l'objectif ultime, c'est d'avoir une monnaie commune. Et pour cela, il faut harmoniser les politiques économiques, c'est-à-dire la politique monétaire et la politique fiscale. Maintenant, avant cela, il faut établir une zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun. Et dans ce marché commun, en fait, vous avez la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux, des facteurs de production et le libre établissement des personnes et des sociétés libérales dans l'espace communautaire. Ce n'est pas rien. La CEDEAO est la communauté économique régionale parmi les 5 que compte l'Union africaine, la plus avancée parce que nous avons un passeport commun. En Afrique centrale, d'un pays à l'autre, vous avez besoin d'un visa. Plus que ça, pour vous dire que ce n'est pas un non-événement, vous savez, la diaspora malienne est très importante. Et elle contribue énormément à notre résilience et elle contribue au développement socio-économique de notre pays. Allez simplement dans la région de Kayes pour voir ce que nos compatriotes réalisent là-bas, en lieu et place de l'État. L'année dernière seulement, le dernier chiffre de la Banque mondiale par rapport aux circuits officiels, la diaspora malienne a envoyé 631 milliards de francs CFA. C'est à peu près 2 milliards de francs CFA tous les jours. C'est plus que l'aide publique au développement, c'est plus que l'investissement direct étranger que notre pays reçoit. Ce n'est pas rien. Mais moi, je considère que c'est au moins le double parce que ce qui passe par les circuits informels doit être autant, sinon plus. Donc, sur ces 6 millions de Maliens, vous en avez 90% qui sont dans cet espace communautaire.
Donc ils n'ont pas pu faire le même transfert pendant ces sanctions.
Non, mais s'ils gagnent leur vie dans l'espace communautaire et que ceux qui sont chez nous aussi gagnent leur vie, mais si vous mettez de l'entrave à cela, est-ce que ces gens-là pourraient, est-ce que ceux, nos compatriotes qui sont à l'extérieur pourraient envoyer, s'il y avait même des restrictions, à plus forte raison, si ces sanctions n'étaient pas levées, ce ne serait pas possible. Donc heureusement que les sanctions n'ont pas touché à ces genres de transferts, même s'il y a eu des difficultés que j'ai entendues par-ci, par-là. C'est pour vous dire que notre activité économique principale au Mali, c'est le commerce international. 60% de l'économie de notre pays est basée sur le commerce international, c'est-à-dire ce que nous exportons, ce que nous vendons comme biens et services à l'extérieur, et ce que nous achetons aussi à l'extérieur, ce que ça, les importations. Mais on a toujours importé plus de l'extérieur que nous vendons à l'extérieur. Et aussi, notre premier poste d'importation, ce sont les hydrocarbures qui constituent 22 à 25% de tout ce que nous achetons à l'extérieur. Nous n'en produisons pas. Heureusement que ce produit ne figurait pas dans les sanctions. Les sanctions auraient pu être durcies davantage, mais je pense que le but de l'intégration économique, ce n'est pas de sanctionner les populations.
Qu'est-ce qui va donc changer avec cette levée partielle des sanctions de la CEDEAO? On va écouter le reportage de Amsetou Gogo Touré par rapport à l'ouverture des frontières.
Cette levée des sanctions est accueillie avec une grande joie à Kouri et à Bankas, près des frontières avec le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Des cars bloqués depuis 6 mois sont désormais prêts à traverser la frontière. Une situation qui réjouit les commerçants et transporteurs de Bankas.
La levée de l'embargo est un ouf de soulagement pour nous, les transporteurs, parce que notre économie a vraiment chuté. Dès cette semaine, nous allons commencer à faire le voyage. Nous pourrons faire les échanges commerciaux.
Dès que nous avons appris la nouvelle, nous avons préparé nos bagages pour la Côte d'Ivoire.
Même constat au niveau de Kouri frontalier avec la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Des commerçants soulignent que cette réouverture des frontières en cette veille de Tabaski va booster l'économie locale.
Je suis très heureux de cette levée des sanctions. Mali et Burkina Faso, c'est la même nation. Vive la solidarité africaine.
Je suis transporteur. J'ai accueilli la fin de l'embargo avec joie. Elle va faciliter notre travail.
C'est un ouf de soulagement. Que Dieu épargne le pays d'une telle autre situation.
Pour rappel, ces sanctions concernaient la fermeture des frontières avec les pays membres de la CEDEAO, la suspension des transactions sanctions financières et les sanctions individuelles contre les membres du gouvernement.
Alors, on vient d'écouter ce reportage de Amsetou Gogo Touré par rapport à la réouverture des frontières. Au-delà de cet aspect-là, quel autre avantage peut-on tirer le Mali de cette levée des sanctions? Ensuite, on parlera des défis également à relever, Dr Fodié Tandjougoura.
Non, parce que mon collègue l'a rappelé, vous savez, la levée des sanctions permettra tout de même de propulser plus ou moins les échanges économiques, surtout la circulation des personnes et de leurs biens dans l'espace. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le Mali, par exemple, nous avons ce qu'on appelle un solde migratoire qui est négatif, c'est-à-dire qu'on a plus de Maliens à l'étranger que d'étrangers au Mali. Donc, franchement, nous avons besoin de nos pays, des pays qui nous entourent, nous avons besoin des pays qui relèvent de cette communauté, les échanges d'individus, de personnes, les échanges économiques, c'est tellement important.
Avons-nous plus besoin d'eux qu'eux, ils n'ont besoin de nous, ou est-ce...
C'est-à-dire que là où nous sommes, si on regarde sur le plan purement migratoire, le pays où il y a le plus de Maliens au monde, et selon les statistiques, c'est la Côte d'Ivoire, ce n'est pas l'Europe. Et si c'est fermé avec la Côte d'Ivoire, il y a combien de Maliens qui sont établis, qui ont leur affaire là-bas, qui travaillent et qui souvent commercent avec le Mali. Donc, si je considère sur le plan purement de la diaspora, je dirais que nous, on a beaucoup plus d'intérêt dans ce pays-là que ces pays n'ont au Mali ici sur le plan purement migratoire. Mais c'est un espace qui est intégré. Et nous sommes interdépendants. Vous avez vu, avant la levée des sanctions, on avait fait une exception sur l'exportation du bétail. Donc, il y a ce que j'appelle une réciprocité à ce niveau-là. Nous ne sommes pas nuls, mais nous avons également des capacités à apporter à cet espace-là, ce qui fait que la levée des sanctions va fluidifier, n'est-ce pas, cet échange qui était à l'arrêt totalement. C'est pourquoi ce n'est pas un non-événement, selon moi.
Sur le plan politique, est-ce qu'il y a des choses qui vont changer positivement pour le Mali ?
Mais politiquement, je l'espère. Et je l'espère de tout mon cœur parce que, vous savez, sans stabilité politique, il est difficile de pouvoir prospérer sur le plan économique et d'avoir la paix sociale. Et évidemment, comme il vient de le dire, nos pays sont interdépendants. Vous savez, en 2019, le Sénégal a vendu pour 562 milliards de biens et de services au Mali. Et en 2020, c'était 475 milliards de francs CFA. Le Sénégal est nous sommes le premier partenaire économique du Sénégal. Vraiment, le port de Dakar dépend en grande partie des activités de l'économie malienne. Mais nos deux principaux fournisseurs sont le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Mais pour revenir à nos exportations, notre première recette d'exportation selon les statistiques de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest en 2020, c'était l'or d'abord en première position. L'or était constitué 82% des recettes d'exportation pour 2304 milliards de francs CFA. Ensuite, vous aviez le coton. Mais c'était une mauvaise année. Sinon, le coton, d'habitude, produit peut-être deux fois plus. Et le coton constituait 6% des recettes d'exportation. En temps normal, c'est entre 10 et 15%. Et a rapporté 160 milliards de francs CFA. Mais le coton a été légèrement impacté par les sanctions parce que le coton est évacué par le port d'Abidjan. Même si nous avons essayé d'emprunter des corridors de substitution à travers Nouakchott et Conakry, mais à Abidjan, la capacité est 10 fois plus grande que ces deux ports réunis. La troisième recette d'exportation, c'est le bétail, les animaux vivants. Nous sommes premier producteur de bétail de l'UEMOA et deuxième.
Surtout en cette veille de Tabaski.
Et deuxième de la CEDEAO après le Nigeria. Mais le Nigeria n'est pas autosuffisant. Nous sommes exportateurs nets. Donc, les céréales, la même chose. Nous sommes deuxième exportateur au niveau de la CEDEAO, producteur au niveau de la CEDEAO après le Nigeria encore. Mais encore, nous exportons beaucoup. Donc c'est pour dire que les pays sont interdépendants. Et
si aujourd'hui, la vie est chère, le carburant coûte cher. On sait qu'il y a l'Ukraine qui doit être prise en compte par rapport à cela. Le bétail coûte cher. Tout coûte cher pratiquement selon le Malien lambda. Est-ce que quelque chose va changer par rapport à cela?
Rien ne va changer. Il faut attacher vos ceintures parce
que ça va s'empirer. Pourtant, les gens disaient que c'est à cause des sanctions de la CEDEAO.
Ça n'a rien à voir avec la sanction. Je vais vous dire ce que j'en pense. Il faut attacher les ceintures parce que ça ne fait que commencer. Pour les raisons suivantes. Un, vous avez la résurgence du coronavirus, Omicron, et Shanghai a été confiné, qui est la ville la plus peuplée et la région la plus industrialisée de la Chine. Cela a rompu les chaînes de valeur du commerce mondial, parce que la Chine est quand même le plus gros exportateur de biens et services au monde. Donc si les produits n'arrivent pas à bouger, évidemment, les prix augmentent. Mais avec la guerre en Ukraine aussi, vous avez la Russie qui est premier exportateur mondial de pétrole. La Russie vend sur le marché mondial du pétrole 8 millions de barils tous les jours. Donc les prix aussi ont pris l'ascenseur parce que le pétrole russe ne se trouve pas vraiment sur le marché international et est vendu dans d'autres pays, mais pas sur le marché international. Mais maintenant, le facteur déterminant pour la hausse des prix à la consommation, c'est le prix à la pompe, c'est le carburant. Le carburant, nous n'en produisons pas. Nous l'importons. Et d'ailleurs, en toute l'Afrique, il n'y a qu'à peine 10 pays producteurs de pétrole. Les 45 autres sont des importateurs nets, c'est-à-dire achètent. Donc quand le prix du pétrole augmente, nous sommes en difficulté. Parce que non seulement le prix à la pompe, ça joue sur tous les prix, y compris le prix des produits d'alimentation, de l'énergie d'abord, de l'alimentation et des transports. Comme nous sommes un pays enclavé encore, quelqu'un m'expliquait, me disait, mais pourquoi des produits même locaux augmentent? Mais j'ai dit, mais si les prix à la pompe augmentent, le prix des transports même interurbains augmente, mais même de chez vous au marché, mais vous empruntez, c'est où vous achetez de l'essence, où vous empruntez un transport interurbain, mais il faut répercuter ce prix. Et donc ça n'a rien à voir avec la production locale uniquement, mais il faut voir toute la chaîne de valeur qui est intégrée et le prix final, et vous intégrez le prix à la pompe. Donc il y a tous ces aspects, mais l'inflation aujourd'hui aux États-Unis, ça fait 40 ans, depuis 1982, ils n'ont pas connu une telle hausse des prix. En Europe, ça fait 25 ans, depuis janvier 1997 qu'ils ont commencé à prendre les prix pour l'ensemble des pays, des 27 pays européens, ils n'ont pas connu une telle hausse des prix. Mais maintenant, dans notre cas spécifique, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, vous savez, les critères de convergence macroéconomique, la Banque centrale avait pour cible 3% d'inflation au maximum. Le Mali n'a jamais atteint ce seuil. Aujourd'hui, nous sommes à 6,8% de moyenne pour l'UEMOA. Il y a même un de nos pays voisins qui a 13,5% d'inflation. Donc c'est pour vous dire que c'est un phénomène mondial qui frappe tous les pays, y compris les pays qui n'étaient pas sanctionnés.
Quel va donc être le nouvel argument des commerçants et des mêmes Maliens tout court par rapport à cette cherté de la vie? La question reste posée. Mais Mourou Mahou Makalou demande aujourd'hui aux Maliens de serrer les ceintures. Est-ce que vous pensez, docteur Tandigoura, que la ceinture peut être mieux serrée qu'elle ne l'est déjà aujourd'hui?
Bon, je ne suis pas aussi alarmiste que mon collègue parce que, il y a quand même le secteur informel, par exemple, tous ceux qui vivent des petits métiers, qui avaient du mal à trouver de quoi, n'est-ce pas, nourrir leur famille, dû par exemple à la non-accessibilité, ou bien à la cherté du ciment, par exemple, ou bien à d'autres produits, ou bien tout simplement des particuliers qui hésitent à engager des travaux parce que le contexte économique, n'est-ce pas, ne s'y prêtait pas. Donc, il y a quand même un peu d'espoir parce que si on doit se ceindre davantage alors que nous venons de quitter une situation d'embargo, mais je suis conscient qu'il y a un contexte de crise à l'échelle mondiale. Mais je pense que nous ne sommes pas très très plongés dans l'économie capitaliste au point que on serait peut-être frappé comme certains pays le sont. Donc j'ai de l'espoir. Je crois que nous pouvons quand même espérer que la levée des sanctions, quelque part, soit dans le secteur informel, soit même dans la mise à disposition de la circulation de l'argent ou bien dans la relance de certaines activités, cela permettra à certains ménages de souffler. Je crois qu'on peut ceindre la ceinture, mais pas davantage à ce que nous avons fait lors de l'embargo.
Voilà. Alors, vous l'abordiez, qu'est-ce qui va changer par rapport aux défis? Vous parliez du fonds social.
Alors, je parlais du fonds social parce que depuis un certain moment, on a reconnu que les syndicats ont laissé les armes. D'ailleurs, lors d'une intervention, Madame le ministre de l'Éducation a reconnu le sens patriotique et responsable des syndicats d'enseignement qui ont accepté quand même d'accompagner l'État. Mais je disais alors que ça ne suffisait pas, qu'à chaque année, les mêmes revendications reviennent sur la table et que ça ne suffit pas de reconnaître la bonne foi, n'est-ce pas, des syndicats d'enseignement. Donc c'est le moment, pendant que les examens vont bien se dérouler, avant la reprise, probablement dans quelques mois, que l'État prenne langue avec les syndicats pour voir quel pacte de stabilité on peut mettre en place pour qu'à la rentrée prochaine, les mêmes problèmes ne reviennent pas sur la table. J'évoque chaque fois le cas du Burkina Faso. Le Burkina a signé un pacte de stabilité avec les syndicats, moyennant ce que l'État peut offrir. Donc, vous ne faites pas grève pendant 10 ans, pendant tel nombre d'années. Donc, tant qu'on ne trouve pas un pacte avec les syndicats d'enseignants, à chaque augmentation au niveau de l'UNTM, la disposition de l'article 39, qui est une disposition légale, va revenir. Soit il faut rayer la disposition, moyennant quelques avantages, mais ça reviendra toujours. Et il faut résoudre ce cas pendant qu'il est temps.
Par rapport à la dette intérieure, faut-il s'attendre à des réclamations également,
Romain? Oui, il y aura des réclamations au niveau de la dette intérieure, mais pour revenir à l'argumentation du coût de la vie, vous savez, le prix de l'alimentation dans un pays comme le Mali, en Afrique même, une personne sur trois vit en dessous du seuil de pauvreté. Et les prix, nous ne les maîtrisons pas, surtout le prix de l'énergie. Donc ça nous est imposé et ça a fait augmenter le prix de l'alimentation. Vous rentrez dans le marché aujourd'hui et le Mali importe presque la moitié des denrées alimentaires que nous consommons. Donc ça vient de l'extérieur. Donc si vous avez le coût des frais maritimes qui augmente, tout cela va augmenter. Si vos salaires ne suivent pas, c'est une analyse scientifique, hein, c'est pas une improvisation. Donc les prix... À travers vos salaires et vos revenus, vous allez consacrer à la consommation. Parce que l'objectif ultime de l'économie, c'est la consommation. De la production, c'est la consommation. Mais en Afrique, 30 à 50% du salaire est consacré uniquement à l'alimentation. Et l'alimentation est en train, c'est pas le Mali seulement, c'est tous les pays du monde. La FAO vient de sortir une note que les prix... des produits alimentaires n'a jamais été aussi élevé depuis 2011. Donc ce n'est pas une question malienne seulement, ça frappe tout le monde. Si le prix de l'alimentation augmente, que vos salaires n'augmentent pas et que vous devez consacrer plus d'argent de votre revenu à l'alimentation, au transport, à d'autres choses, alors que vous êtes déjà dans une situation de précarité, parce que la Covid a déjà démontré que la vulnérabilité avait augmenté. Il y a 1 million de Maliens. Évidemment, le secteur privé est embryonnaire chez nous. 90% des activités du secteur privé est basé sur l'informel. Mais ce sont les couches les plus...
Et en plus de cela, il faut s'attendre à des réclamations également.
Mais bien sûr, ce sont les couches les plus fragiles. Mais écoutez, si vous gagnez 100 000 francs et que le coût de la vie... Mais 6,8%, ce n'est pas rien. Le Mali, l'année dernière, n'avait même pas 2% d'augmentation. Maintenant, nous sommes à près de 7% d'augmentation du coût de la vie. Mais ce n'est pas insignifiant. Donc c'est pour cela, je dis, nous sommes dans une situation, une conjoncture économique internationale difficile. Et maintenant, nous avons un problème de stagflation, c'est-à-dire de la baisse de l'activité.
Je vous donne la parole tout à l'heure. Docteur Fodier, Amadou Aya, du cadre d'échange des partis et regroupements politiques, disait que l'État doit maintenant travailler avec cette levée des sanctions de la CEDEAO. En quoi pourrait consister ce travail demandé par le cadre?
Bon, moi, je ne sais pas parce que, vous savez, là, il y a beaucoup de corporations qui gravitent autour, n'est-ce pas, du pouvoir, qui cherchent tout de même à ce que l'État structure, ce que l'État entend faire durant la durée de la transition. Et je pense que l'État gagnerait mieux, durant cette durée de la transition, à mieux faire participer toutes les corporations politiques qui sont intéressées pour mettre en œuvre le chronogramme qui avait été présenté. Parce que je rappelle que beaucoup d'analystes ont de sérieuses réserves quant à la mise en œuvre. Les partis politiques, les regroupements qui ont soit soutenu, qui se sont soit opposés ou qui sont neutres, tous attendent à ce qu'on mette en œuvre le chronogramme tel que ça avait été annoncé, tel que les échéances avaient été rappelées tout au long du chronogramme. Alors, l'État doit travailler à faire adhérer l'ensemble de ces organisations à ce projet, ne pas exclure, ne pas permettre à ce qu'il y ait une division autour de ça, de sa mise en œuvre. C'est un défi, je ne sais pas s'il va le réussir, l'État, mais ne pas le réussir, ça peut effectivement créer d'autres défis, n'est-ce pas, notamment par rapport à ce que la communauté internationale craignait, n'est-ce pas, c'est-à-dire que le fait d'exclure certaines organisations, ou bien même le fait de prêter des intentions, des velléités aux membres de la transition de vouloir se porter candidat. Donc pour balayer tout ça, il faut intégrer tout le monde dans sa mise en œuvre.
Le respect des engagements pris par les autorités de la transition et demandé par le cadre également. Aujourd'hui, quelles doivent être les priorités des autorités de la transition avec les défis que vous avez cités, économiques, les élections, entre autres?
Oui, d'abord la stagflation, je reviens, c'est la baisse de l'activité économique et la hausse du coût de la vie. C'est deux problèmes majeurs auxquels les dirigeants doivent faire face avec la politique économique. Il faut trouver davantage de ressources. Mais les mecs de ressources de l'État sont déjà épuisés. Et vous savez, il va falloir relancer la machine. Vous savez, les dépenses budgétaires, je vous l'ai dit, allaient à 2749 milliards de francs CFA. Mais ce n'est pas rien. Donc maintenant, il va falloir aussi, il y a eu de sérieux efforts, parce que entre la loi de finances 2021 et la loi de finances 2022, il y a presque 80 milliards d'augmentation de la masse salariale. Donc l'État a fait des efforts de cela à travers les différentes négociations. Le front social, évidemment, il faut en prendre soin, mais ça demande des ressources. Mais vous savez, la difficulté, c'est quoi? C'est que les besoins sont illimités, mais les ressources sont limitées. Et l'État ne peut pas tout faire. Et maintenant, il va falloir faire face aussi aux investissements à moyen et long terme. Et comme je l'ai dit, le coût du fonctionnement de l'État a augmenté, 72% contre 28% pour les investissements, alors que nous avons besoin de plus d'investissements pour que l'économie puisse croître. Si l'économie croît, les revenus vont croître, et c'est en ce moment que l'État peut faire plus de dépenses publiques. Et vous savez, aussi, nous sortons de cette crise.
Ça lui permettra de faire face au front social, au cas.
Mais non, mais il faut davantage de ressources, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. En sortant de ces sanctions, il y aura des pertes de recettes, parce que ce qui était prévu, c'était 1800 millions. Pour la douane et les impôts, mais nous n'allons pas atteindre cet objectif. Il va falloir trouver des ressources nouvelles. L'État est confronté à des défis multiples. Donc, faire face à tous ces fronts en même temps, ça va être très compliqué.
Est-ce que l'État, aujourd'hui, a les ressources nécessaires pour faire face au chronogramme électoral?
Mais bien sûr, mais c'était déjà programmé dans la loi des finances. Et maintenant que nous sommes de retour dans la communauté, parce qu'un aspect très important maintenant, c'est que maintenant, le déficit budgétaire qui était de 618 milliards, l'État peut le financer maintenant qu'il a accès au marché financier et monétaire de l'Union européenne, de l'Union économique et monétaire ouest africain. Parce que vous savez, en 2021, l'État avait emprunté pour près de 800 milliards sur ce marché. Évidemment, il va falloir rembourser la dette intérieure, la dette extérieure, mais aussi on peut emprunter aussi, mais l'important c'est...
Et on aura d'autres occasions pour poursuivre ce débat, notamment en langue nationale bamanankan, la semaine prochaine, et bien sûr, si les mêmes invités sont disponibles, ça pourrait se faire avec Dr Fodie Tandjigoura, sociologue, et Modibo Maoum Makalou, économiste, qui sont nos invités du jour à la régie vidéo et audio, Mamadi Keïta et Seydou. Ndaou, je suis Mouhamadou Touré. Je rappelle que le thème de ce grand dialogue était levée partielle des sanctions contre le Mali. Qu'est-ce qui va changer? Modibo Maoum Makalou demande aux Maliens d'attacher encore les ceintures et Dr Fodie Tandjigoura estime qu'il faut être encore beaucoup plus optimiste. Alors, espérons que la situation va être beaucoup plus stable pour chaque Malien. Merci à toutes et à tous et à demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri.
Halo Dumondi.
Chenne Beri.
Sigi Kafoba.